cœur d'un homme.
Comment faire pour vivre sa foi au quotidien alors qu'on n'est ni pasteur ni théologien?
Étienne Herbrecht.
C'est le but de votre rendez-vous, le cœur d'un homme, avec Étienne Herbrecht. Bonjour Étienne, bonjour amis auditeurs.
Bonjour Thierry.
Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu.
Thierry, je sens que tu as quelque chose à nous dire.
Carrément. Et si tu veux mon avis, ce n'est pas juste moi, entre guillemets, qui ai quelque chose à dire.
Explique-nous. Qui d'autre ?
J'ai cité le début du psaume 46, verset 10. La suite dit ceci. « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Fin de citation.
Les psaumes sont un livre très riche sur l'enseignement et sur tout ce qui est consolation. Je vous invite, amis auditeurs, à découvrir ce livre magnifique. Ça peut que vous faire du bien.
Ce qui est en plus merveilleux avec les psaumes, c'est que la plupart du temps, ce sont des émotions qui sont traduites et couchées sur papier. Et ce que je voulais dire en citant ce verset, c'est vous raconter le contexte de comment il m'est venu à l'esprit.
Raconte-nous.
Alors, c'était il y a quelque temps. Il y a eu un accident, en fait. Et je me suis rendu sur les lieux de l'accident quelques jours après. Et... comment dire ? En marchant, il y a plein de pensées qui me sont traversées l'esprit, notamment pourquoi est-ce que ce genre de choses arrive. Enfin, vous savez, la distance entre le kilomètre et accident, le lieu du phénomène et le kilométrage influe beaucoup sur nous. Plus c'est loin, moins on va se sentir concerné. Enfin, généralement, après, il peut dépendre, voilà, il y a des critères. Mais c'était assez proche de là où j'habite et, comment dire ? En me rendant sur place, je me suis rendu compte de plein de choses et je me suis senti en dialogue avec Dieu. Et comment dire, en marchant, il y avait vraiment un paysage hyper beau, c'était le matin. Alors, c'est pas forcément un paysage beau, mais c'est un paysage que je trouve beau de manière personnelle. Il y avait la végétation était toute humidifiée à cause des récentes pluies qu'il y avait. Et du coup, elle avait un aspect beaucoup plus terne et beaucoup plus puissant, je trouve, au niveau obscurité. Enfin, les couleurs étaient accentuées. Et le ciel était à moitié orageux, moitié dégagé. Et il y avait des nuages très chargés. Et j'arrive en vue du lieu de l'accident. Je regarde sur la droite et j'ai vu sur la carrière de la Chérolle. Et il y a un superbe arc-en-ciel qui démarre de la carrière, au-dessus de la carrière de la Chérolle et qui continue et qui forme un demi-arc de cercle jusqu'au milieu, à la hauteur du lieu de l'accident. Je me suis dit, attends, Seigneur, t'essaies de me dire quelque chose. Et j'ai eu justement ce verset en tête. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et quelque part, ça me fait prendre en compte que plusieurs choses. Bah, déjà, que les malheurs qui arrivent sur la Terre, ou tout ce qui arrive sur la Terre, la création, les accidents, quelque part, ça c'est peut-être une interprétation personnelle, mais les tsunamis, les volcans, les éruptions, c'est des manifestations, je pense, de la nature. Et à mon sens, c'est une manifestation de la puissance, de la colère de Dieu. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais je pense que ce genre d'événement devrait nous faire rendre compte de la puissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui, à l'origine, a créé tout ça. Enfin, la Bible le dit. Et je pense que ce genre d'événement devrait nous permettre de retourner à Dieu. Et moi, j'ai peut-être cette pensée plus ou moins inconsciente qui vient quand il y a ce genre d'événement, accident, où j'ai deux pensées. C'est pourquoi, Seigneur, tu permets ça ? Et en même temps, combien tu dois être en colère, Seigneur, pour permettre ça ? Combien tu dois être en colère pour que ce genre de choses puissent tu permettes d'arriver. Ça, c'est une première pensée. Deuxième pensée, c'est qu'on est fragile. On est fragile, vraiment, on est fragile. On est arrivé avec des moyens de transport actuellement qui nous permettent de voyager à des vitesses vertigineuses. Il y a la gravité, il y a l'attraction, il y a des forces en conséquence, mais qui nous mettent en danger, en fait, si on ne respecte pas le code de la route, les règles de sécurité. J'imagine que pour les avions, il y a aussi des règles strictes à respecter. Eh bien, on est arrivé à un tel point où nos moyens de transport nous mettent en danger, quelque part. Même si il y a moins d'accidents, notamment au niveau de la route, c'est plus sous contrôle, mais notre comportement est très dépendant de notre sécurité. Comment je roule, comment je me comporte sur la route, voilà, c'est pas évident de forcément coexister, mais du coup, ça m'a fait rendre compte de la fragilité de la vie. Et troisième et dernière chose par rapport à cette expérience, c'est que, quelque part, Dieu nous aime. Et Ces expériences, parfois traumatisantes de la vie, Dieu ne les souhaite pas. Je pense pas que Dieu les souhaite, mais Dieu les permet parce que je pense que la personne qui était au volant m'a Dieu a permis qu'elle conduise de cette façon, parce qu'il y a une certaine liberté que Dieu permet à l'homme. Et voilà, peut-être que dans un futur proche, cette personne voilà, qui pourra peut-être rencontrer le Seigneur et guérir de son traumatisme. Mais je ne pense pas que Dieu est un manipulateur. Je pense que Dieu vraiment est quelqu'un qui aime ses enfants et qui souhaite qu'on arrive. Je pense qu'en fait, le cœur de Dieu, il est déchiré. Parce que quelque part, s'il sait tout, il sait très bien que cette personne, cet accident a eu lieu et que ça a fait souffrir telle et telle personne, tel et tel membre de la famille et que machin, et que toutes les interactions qui en dépendent. Mais son cœur, il doit être en mille morceaux. S'il aime chacun de ses enfants et chacun des êtres humains qui ont été créés, mais qui ne sont pas forcément ses enfants, mais qui pourraient le devenir, ça lui brise le cœur, j'imagine. Enfin, moi, je sais pas. J'imagine si j'ai un enfant et si je sais qu'il fait les mauvais choix ou il prend des choix que je n'approuve pas, ça me brise le cœur, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que une fois devenu adulte, il est responsable de ses choix ? Et c'est aussi un peu ça que Dieu veut avec nous, que nous soyons des adultes spirituels. Et ça, c'est en même temps merveilleux et en même temps dramatique.
Oui, alors ça fait réfléchir tout ce que tu dis. Et il y a plusieurs choses que j'aimerais partager là-dessus. Déjà, de un, effectivement, aujourd'hui, l'être humain en général ne veut plus de Dieu dans sa vie. On ne veut plus rien savoir. Il y en a beaucoup qui croient même pas que Dieu existe. Ils savent même pas que... Ils pensent qu'après la mort, beaucoup croient que derrière, ben, on est comme un animal, ben, c'est fini. On est comme un bout de viande, comme un ami à moi disait. Donc on est dans un tel contexte où on ne veut plus rien savoir d'un Dieu. J'étais en train de lire un livre témoignage où il y avait une politique où dans le pays, on n'avait pas le droit de croire en Dieu. C'était interdit de croire en Dieu. Parce que le seul qui était vénéré, c'était le président, c'était je sais pas comment on peut l'appeler, mais le gouvernement. C'était le seul roi, le seul dieu, c'était le gouvernement. C'est lui qui décidait ce qui était bon et pas bon. Et les hommes qui voulaient croire librement en Dieu n'avaient pas le droit de croire en Dieu, et quitte à être mis en prison, condamné des fois pour 25 ans à cause de leur foi. C'est juste incroyable. Il y a cette chose-là qui me parle, mais il y a également une autre chose. Tu parlais de la création tout à l'heure, et cette création, il y a un verset dans la Bible qui explique que l'homme n'a aucune excuse, parce que quand on voit la création, on reconnaît le Créateur. Et ça, c'est juste incroyable. Moi, j'aime également beaucoup la nature. J'aime me marcher, comme on l'a déjà pu l'entendre. J'aime aller en forêt, j'aime voir les montagnes. C'est juste impressionnant quand on regarde les étoiles dans le ciel en été. Il n'y a rien de plus beau. Et quand on voit cette création magnifique, mais on ne peut que méditer sur le Créateur. Qu'est-ce qu'il est incroyable ? C'est comme un tableau. Quand on voit un beau tableau, on voit un peintre derrière. Quand on voit un jardin d'un paysagiste, on voit le maître d'œuvre qui a créé ce jardin-là, etc. Et du coup, j'ai pensé à d'autres versets pour compléter ce que tu viens de dire. Un des versets qui me vient tout de suite, c'est Romains 3, 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est la condition de l'être humain, d'une manière générale. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On est tous voués à l'enfer, malheureusement. Mais heureusement, Dieu a trouvé une solution. Dieu a payé le prix pour ceux qui vont se repentir. Et je vais continuer, mais il y a un autre verset d'abord qui est important de comprendre. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est juste quelque chose qu'il faut méditer. Les auditeurs, mes amis, j'aimerais vraiment que vous méditiez là-dessus, parce que votre avenir éternel est en jeu.
Comme tu viens de le dire, on n'a qu'une vie. C'est pas comme dans les jeux vidéo, mais la similitude, je dirais, par rapport à ça, c'est que de plus en plus, on peut faire des choix. Dans les jeux vidéo, on peut faire des choix. Il y a de plus en plus de jeux de rôle ou qui sont ultra développés. Et dans la vie, on peut aussi choisir. On a parfois l'impression d'être dans une impasse. On se dit souvent, mais il n'y a pas le choix, il faut... Enfin, une espèce de fatalité un peu bizarre. Mais je pense qu'on peut choisir. et on a la liberté de choisir. Et quelque part, ne pas choisir, dans le sens choisir la fatalité du style « il faut », bah quelque part, c'est un choix qui n'est pas forcément positif pour moi, parce qu'on ne prend pas le choix et on ne fait pas le choix de vouloir avancer, de vouloir aller vers là où on voudrait aller, là où on souhaiterait aller. Et je pense que Dieu nous laisse cette liberté de choisir, même si j'ai quelques exemples où Dieu a mis un stop. C'est rare que ça arrive, mais Dieu met des stops parfois. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Bah, sur la route de Damas, dans la Bible, le stop, il était clair, net et précis. Hein. Mais je pense que cette liberté, elle agit aussi sur notre... comment dire ? Elle agit sur notre comportement, l'attitude.
Exactement. Et justement, je vais continuer avec ce que tu as dit, le choix. Aujourd'hui, suite à ce que vous entendez, on a tous ce choix. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai entendu ? Parce que je vais vous lire un verset qui est important, parce que c'est une solution. C'est un choix que vous pouvez faire, comme peut-être que vous n'allez pas faire. Mais un verset qui dit, Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants. » Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Vous avez le choix de vous sauver de cette génération pervertie ou le choix de ne pas le faire. Chacun reste libre. Mais ce qui est important, c'est vraiment de changer d'attitude. Quand je fais du mal et que je continue à faire du mal, et que je demande pardon, mais que je continue, il n'y a aucune valeur dans ce demande de pardon. Mais quand je demande pardon, et que je change, et que je deviens quelqu'un d'autre, et que les gens remarquent que j'ai changé, voilà cette différence. Et c'est important d'avoir ce changement d'attitude, et de revenir à Dieu.
Je crois que Dieu a cette particularité d'adresser autant des messages d'amour que de fermeté dans la même parole parfois, hein. C'est assez incroyable, et je le sais par expérience personnelle, et je pense que c'est quelque chose que je pourrais peut-être partager à l'avenir, pourquoi pas, mais justement, il y a cette résistance parfois qu'on a à l'intérieur de nous d'être rebelle, et justement de pas forcément écouter la voix de l'Éternel.
Oui, il y a un verset qui va compléter ce message. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » C'est un verset très, très important à méditer, car il est mentionné 3 fois en l'espace de 2 pages seulement. Ça prouve bien à quel point Dieu nous aime et nous avertit de ne pas endurcir son cœur, mais de vraiment revenir à Dieu et de faire la paix avec lui. Lui demander pardon et changer d'attitude, le chercher de tout son cœur. Quand la Bible dit de changer d'attitude, c'est un ordre en fait. C'est comme si j'étais papa et si je disais à mon enfant, ne va pas au bord de ce précipice, car je l'aime tellement, et je ne veux pas qu'il meure et qu'il tombe dans ce précipice. Et là, encore plus important, Dieu nous parle d'une mort éternelle, cet enfer, qui est préparé pour ceux qui n'obéissent pas, qui ne sont pas revenus faire la paix avec Dieu. Et également de ce choix, d'une vie éternelle, le paradis, pour ses enfants.
D'où l'importance et l'urgence de la question, si je meurs maintenant, est-ce que je sais où j'irai ? Si vous mourrez maintenant, est-ce que vous saurez, vous savez où vous irez ? Merci Étienne, on se dit à la semaine prochaine. Bonne réflexion à vous.
Merci Thierry.